partie, c'est celle de savoir quel sens donner aujourd'hui aux notions de repentance et de pardon en islam. Sachant que c'est la troisième, disons que cette intervention, c'est la troisième qui vient après celle sur le Ouad al-Waïd, je crois, et le Mezid al-Mezid. Donc après la Ouad al-Waïd qui est le troisième principe du mutazilisme, et la Mezid al-Mezid qui est le quatrième principe du mutazilisme. Pour rappel, le mutazilisme se bâtit autour de cinq principes. Le premier principe, c'est celui de l'unicité absolue de Dieu, le Tawhid. Le deuxième principe, c'est le Adl, donc c'est la justice divine. Le troisième principe, c'est la promesse du paradis et la menace, finalement, de l'enfer pour ceux qui l'ont mérité. C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit musulman mais qui agit mal, et j'insiste sur quelqu'un qui se dit musulman, qui agit mal et qui a été corrupteur entre guillemets toute sa vie, qui a fait que des mauvaises choses toute sa vie, si on suit les descriptions coraniques, si on suit les descriptions coraniques, c'est quelqu'un qui finira en enfer. Et c'est pas parce qu'il se dit musulman. Il faut pas se dire musulman, il faut l'être. C'est-à-dire qu'il faut mettre la croyance, ce dont on est porteur comme valeur, en application concrète. S'il n'y a pas de mise en application concrète, c'est que la croyance qu'on a, c'est que du vent, en fait.
D'ailleurs, donc, j'ai cru lire que les musulmans, ils ont ajouté le statut de fesser entre celui de musulman et de kafir.
Et merci, parce que ça sert de transition pour le quatrième principe, qui est celui de la demeure intermédiaire, puisque le musulman qui commet un péché grave, il est considéré non pas comme un murtad ou comme un kafir, donc un dénégateur ou un apostat, mais comme un fesser, donc un délinquant, quelqu'un qui est un criminel, entre guillemets, mais qui n'est plus croyant sans être non plus un croyant, et il est dans la demeure intermédiaire. Ce qui veut dire que, finalement, le pécheur, le croyant qui est pécheur, il a une possibilité de se racheter. C'est celle de faire taouba, de faire repentance, et une fois qu'il s'est repenti, dans ce cas-là, il est reconsidéré comme croyant comme les autres. Donc, j'insiste sur le fait, quelqu'un un jour m'a posé une question, c'était très intéressant, mais il pensait que la demeure intermédiaire, c'était une sorte de purgatoire après la mort. Il pensait que c'était quelque chose de métaphysique, quelque chose qui vraiment d'eschatologique. Alors que pas du tout. La demeure intermédiaire, c'est un statut fonctionnel. Voilà, fonctionnel. C'est quelque chose qui nous sert à savoir comment se comporter, comment définir nos actes, tant qu'on est vivant. Hein. C'est ça qui est très important. Et le dernier principe, c'est le principe moral, l'ordre de faire le bien, d'ordonner le convenable. Plus important que bien, simplement, dans l'ordre de faire le convenable et d'interdire le blâmable. Donc, convenable et blâmable, vous voyez bien que quand je dis ça, on comprend, on sous-entend les valeurs bien-mal, mais ce qui est intéressant, c'est que les termes en arabe, qui viennent du verset coranique, Amr bil ma'ruf, wa nahy 'anil munkar, ma'ruf, ça fait référence vraiment à quelque chose de connu, donc quelque chose qui est accepté, qui est convenu, qui est accepté par le groupe, par poser des points d'interrogation parce que c'est tout un sujet, mais en tout cas ça montre que le bien et le mal sont des valeurs dynamiques qui sont à définir, qui sont à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas non plus un bien ou un mal qui n'existe pas, il y a un socle de base, mais ensuite en fonction des sociétés les choses changent. Alors ça, ce sont les cinq principes de Mu'tazila. On avait commencé cette question du pardon de manière générale, de la rahma, de la compassion, avec la première, il y a deux séances. Donc la première séance sur ces questions-là, elle portait sur le Ouad al-Waïd, donc la promesse du paradis et la menace de l'enfer. Et la deuxième séance a porté sur la demeure intermédiaire. Maintenant, on se pose la question de savoir, donc, une question un peu de dissertation, on pourrait dire, quel sens donner aujourd'hui aux notions de repentance et pardon en islam ? On est toujours autour de cette question-là de pardon et de repentance, mais ici, on va peut-être prendre un peu plus de distance que simplement se rester accroché aux deux premiers principes qui sont la promesse du paradis, menace de l'enfer ou la demeure intermédiaire. On va essayer de prendre une distance plus générale et penser cette question-là de la repentance et du pardon en islam. Alors, quand je dis en islam, on comprend juste version mutazilite, acception mutazilite. Oui.
Quand tu parles de demeure intermédiaire, tu parles de la tombe ou de ce qu'il y a entre le paradis et l'enfer quand quand les gens ils rentrent ni au paradis ni au
purgatoire.
Non, non. C'est un statut purement fonctionnel. C'est-à-dire que un musulman qui vit maintenant, qui se dit musulman et qui tue quelqu'un par exemple qui commet un crime grave, dans la pensée mu'tazile, on peut plus le considérer comme croyant, mais on peut pas le considérer non plus comme un infidèle. Donc ça, il est encore vivant, il n'y a pas de... Et donc, tant qu'il est dans cette situation-là, où il n'y a pas de repentance de sa part, il n'y a pas de remords, il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de demande de pardon, eh ben dans ce cas-là, nous, on ne peut pas le considérer comme croyant, comme vraiment un musulman. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a moins d'impact qu'à l'époque où ça a été pensé. À l'époque où ça a été pensé, alors toujours en tirant une conclusion de la lecture du Coran, mais à l'époque où ça a été pensé, c'était une époque où La croyance, c'était un peu une sorte de statut civique. C'est-à-dire que c'était la nationalité, quoi. Ouais. Si on était musulman, c'est qu'on était un citoyen de plein droit, entre guillemets, on avait le droit à ceci et cela. Mais si on était considéré comme apostat, ben, en fait, on perdait ses liens, on perdait le droit de témoigner, on perdait ses droits civiques.
On est excommunié, il y a une excommunication par rapport à la croyance.
Oui, puis on pouvait être tué aussi. Il y a plein d'applications concrètes qui étaient très très fortes. Aujourd'hui, nos applications, on essaie de plus s'intéresser à la question du sens, puisqu'on n'est plus dans la question un peu normative, avec le droit positif derrière, mais la question du sens, la question ontologique, donc le rapport à l'être, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et donc, la demeure intermédiaire, c'est de dire que un musulman qui commet un faute grave est quelqu'un qui a renoncé finalement aux valeurs de l'islam, et tout en sachant qu'il y a la possibilité qu'il se rattache. Mm-hmm. Et donc on verra aussi avec la notion de taouba, le mot même taouba, qui dans sa définition, qui est assez intéressant là-dessus. Donc penser en fait la question de la repentance, c'est poser la question et dire... s'il y a repentance, ça veut dire qu'il y a eu faute. Ça veut dire qu'il y a eu péché, en fait. Faute ou péché avant. Mais ça veut dire aussi que si on pense la question de la repentance, qu'on en fait vraiment tout un chapitre, tout un domaine, pas un chapitre, tout un domaine de réflexion, ça veut dire aussi qu'on a une conception de l'homme avec un H majuscule. C'est-à-dire qu'on a une conception de l'être humain, comment il est. Alors, quand on pense la repentance et le pardon, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on dit de l'homme, en réalité? Est-ce qu'on pense que l'homme est pécheur par nature? Est-ce que le péché, la faute, elle est consubstantielle à sa nature même? C'est-à-dire que, quand on pense l'être humain, on pense nécessairement à quelqu'un qui va commettre des fautes ou pas? Est-ce qu'on pense même que la faute, le fait de commettre les fautes, est quelque chose qui va identifier l'être humain, qui va lui donner « je suis être humain parce que je pêche ». Vous voyez? Il y a une question, en fait, derrière, qui est celle, j'appelle ça comme ça, ça me paraît plus simple, la question un peu de l'anthropologie. C'est-à-dire que, quelle définition on va avoir de l'homme, de l'être humain à la base, indépendamment de la question de foi? Comment on définit l'être humain à la base? Qu'est-ce que c'est? C'est une question, en fait, qui est assez... comment dirais-je? C'est une question qui pose, finalement, quelle lecture on a de l'être humain. Ça veut dire, est-ce que l'être humain, comme un peu dans le christianisme, il est marqué par le péché originel? Est-ce que l'être humain, il est voué à la perdition? Est-ce que l'être humain, ça c'est pas forcément dans le christianisme, voué à la perdition, c'est une question que moi je pose. Voilà, comment on pense l'humain? Est-ce qu'il est définitivement corrompu? Est-ce que, voilà, comment on le pense? À la lecture des textes, et dans la compréhension mu'tazila anthropologique, qu'est-ce qu'on peut dire en fait? Ce qu'on peut dire, c'est que l'être humain est faible, comme dit le Coran, mais il est perfectible. C'est-à-dire que l'être humain, il est dans une logique où il peut se reconstruire, il peut s'améliorer. Il peut aussi apprendre. Et ça, c'est quelque chose de très important, et d'ailleurs c'est un des points peut-être qui caractérise le mu'tazilisme par rapport aux autres courants. C'est ce qu'on va appeler l'optimisme gnoséologique. C'est-à-dire que, Mu'tazila vont dire, de naissance, intrinsèquement, l'être humain, il a la capacité rationnelle. L'homme peut connaître. Peut connaître, c'est-à-dire distinguer le vrai du faux, connaître le bien du mal. Il peut faire recourir à ces éléments-là indépendamment de toute révélation. Il peut le faire par l'unique effort de sa pensée, de la méditation. Comment il fait ça? Il fait ça en méditant sur la nature, en réfléchissant et en établissant des liens. Parce que le mot « aql » c'est quand même intéressant à noter. Il y a dans le mot « aql » plusieurs aspects. On traduit généralement par « raison ». L'aql, à l'origine en arabe, c'était les cordes qu'on utilisait pour attacher, pour entraver les chameaux, pour les empêcher de partir. Donc c'était un lien. L'aql, il y a deux dimensions dans ce mot-là. Il y a une dimension qui est celle du « fikr », de l'analyse, de la... l'éclaircissement, de la distinction, la discrimination, dirait en vocabulaire philosophique, donc distinguer entre les choses. Et puis, il y a la dimension de la sila, du lien, justement. C'est-à-dire, quand on distingue entre les choses, une fois qu'on a distingué, ben c'est là aussi on peut voir le rapport. Vous voyez, je prends un exemple, je prends un exemple périlleux, parce que je ne suis pas du tout scientifique, mais vous me corrigerez si je me trompe. La question de la photosynthèse, vous voyez la plante, vous voyez le soleil, vous pensez, quand je vous dis soleil, vous pensez plage. Vous voyez la plante, vous baladez dans la forêt, vous voyez des forêts, des plantes, etc. Vous allez penser, plante, sans forcément associer les deux. C'est par un travail que vous pouvez après associer la terre, la plante, le soleil, l'eau, etc. Et puis voir que finalement tout ça combine, tout ça, ça va ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est qu'on peut connaître des choses d'un côté, connaître autre chose de l'autre, et puis tout d'un coup s'apercevoir, parce que vous avez fini par connaître l'un et l'autre, établir les liens. Mmh. Voilà. Et quand dans le Coran, il y a beaucoup d'appels à ça. Alors très rapidement, sourate 229, 151, 231, 251, ce sont des versets de la sourate 2. Sourate 3, 48, 79, 81, 164, sourate 4, ainsi de suite. Il y en a plein. La yaqilun, l'aql, c'est ça qui est intéressant dans ce mot-là. Et donc, ce que je voulais dire principalement, c'est que ici, c'est une question qui est anthropologique. Le aql, à la limite, on pourrait le rattacher aussi à la notion de fetra. C'est-à-dire qu'on a été fait, on a été fabriqué, si vous voulez, avec cet équipage-là. Ça, c'est anthropologique. C'est quelque chose qui se trouve à la base. Comment on va mettre en lien avec cette question de la repentance? Le lien, il est que Dieu nous dit, voilà, l'être humain, il est faible, donc il peut fauter. Ça arrive. Même ça arrive souvent. Mais, c'est pas une raison. En fait, la faute, on peut commettre des fautes, mais il y a toujours la possibilité de revenir à l'état avant la faute. Et le revenir, vous savez, le mot repentance vient de l'arabe, enfin, pas de l'arabe. On le traduit en arabe, ou repentance, on traduit en français repentance de l'arabe taouba, j'y arrivais. Taouba, quand on regarde dans les scènes de l'arabe, donc le grand livre de dictionnaire de Ibn Mandour, on voit que taouba, c'est l'idée de revenir à. Il y a une idée de retour. Et donc, quand on regarde le retour, c'est l'idée de revenir à une situation qui n'a pas été perturbée. C'est-à-dire qu'on est croyant, on est bien, on agit bien, et puis un jour, on commet la faute. Faire taouba, c'est, en réalité, quand on se repent, c'est revenir à la situation d'avant la rupture, avant la situation qui va interrompre cette relation qui était, on va dire, bonne jusque-là. Donc ça, c'est le premier point, le point anthropologique. Le deuxième point, c'est la question du rapport entre la foi et les actes. Ici, donc on part du principe que l'être humain n'est pas parfait, mais qu'il est perfectible. Il peut connaître, il a des éléments, il dispose naturellement d'éléments qui peuvent lui permettre de raccrocher les wagons quelque part. Donc il a ce qu'il faut. Maintenant, on pense à la question de la foi. Quand on pense dans le cadre, donc on ne parle plus de l'être humain en tant que tel, mais on parle de l'humain croyant, celui qui s'inscrit dans la foi. La question ici, c'est que, et ça a été une grande question dans les différentes écoles musulmanes, c'était celle de savoir quel rapport on entretient entre foi et acte. Est-ce que la foi seule suffit? C'est-à-dire que le fait de dire « je suis croyant, je crois en Dieu » et puis le reste peu importe, puisque comme je crois en Dieu, c'est bon. C'est un peu la définition de ce qu'on appelait les murjites, le murjisme, qui disait que seul compte la foi et pas les œuvres. Si on prend un peu le débat avec les termes entre les catholiques et les protestants, on est bien placé ici pour en parler. La question c'est, est-ce que la foi seule suffit? Ou alors, est-ce que c'est il n'y a que les œuvres qui comptent? Et finalement, la foi, elle ne veut rien dire s'il n'y a pas les œuvres. Est-ce que c'est un rapport, un savant mélange des deux? Bon, il y a plusieurs écoles. Les Murjites, par exemple, pensaient que la foi suffisait. C'était d'ailleurs, c'est... Alors, je fais un peu d'histoire rapidement, mais... le quatrième principe du mutazilisme, la demeure intermédiaire, se viendrait à l'origine... On peut penser que ce n'est pas forcément vrai à 100%, mais enfin, c'est en tout cas l'histoire que vous trouverez partout. Viendrait d'un débat pour savoir si le musulman qui a commis un péché grave, est-ce qu'il était condamné à l'enfer ou est-ce qu'il irait au paradis? Parce que, à l'époque où cette histoire apparaît, où cette question en tout cas a été posée, on est dans les années 700 et quelques, à Basra, en Irak. On est dans la mosquée de Basra et il y a un grand tébéri, donc un suiveur ou un suivant, je ne sais pas comment expliquer ça en français. Vous savez, les grandes catégories de disciples en islam. Après le prophète, vous avez les compagnons, voilà, les fameux salafs, les pieux prédécesseurs. Vous avez les compagnons. Ensuite, vous avez les disciples des compagnons, qu'on appelle les suiveurs ou les suivants.
Successeurs.
Hein?
Successeurs.
Ou successeurs. On Oui, mais je crois que le mot tébéré, on traduit tébéré par suivant.
Par suivant.
Voilà, ouais. Donc il y a les compagnons, il y a les disciples directs de ces compagnons, qu'on appelle les suiveurs, les suivants, comme vous voulez. Et puis il y a les disciples des disciples. Le tébéré et tébéré. Et donc ceux-là. Hein,
c'est les suivants des suivants.
C'est ça, suivants des suivants. Et c'est à ces trois catégories-là qu'on dit que ce sont les salaf et salaf, donc les pieux prédécesseurs. Certains vont rajouter. Et donc là, on est à l'époque de Hassan al-Basri, qui est considéré comme un tébéri, qui est un suivant, donc un disciple de compagnon. Il n'a pas connu le prophète, mais il a connu les compagnons directs. D'ailleurs, on dit que, j'allais dire, son principal formateur. Non, c'est pas ça. Disons que l'enseignement principal qu'il a suivi est celui de l'imam Ali. Et donc Hassan al-Basri, il est donc dans la mosquée, et un jour quelqu'un rentre dans la mosquée et il pose la question à Hassan al-Basri, donc il y a un TV, donc il y a une source, il y a une référence, et il dit, il y a un groupe de musulmans qui disent que le musulman qui est coupable d'une faute grave, finalement c'est Dieu qui décide, et il y a de fortes chances qu'il aille au paradis, donc les fameux murjites. Il y a un autre groupe de musulmans, on appelle les kharijites, qui eux disent, le musulman qui commet une faute grave, c'est un hypocrite, et il est condamné au plus haut degré d'enfer, ou au plus bas, ça dépend comment on lit la chose. En gros, cette personne-là ira en enfer quoi qu'il arrive. C'est fini pour lui. Et donc, il demande à Hassan al-Basri quel est son avis. Et avant que Hassan al-Basri ait pu répondre, bon, ce côté, j'avoue que je vois c'est plus une légende qu'une réalité, mais bon. Au moins, vous savez ce que j'en pense, mais en même temps, vous la trouverez si vous cherchez dans le livre, vous trouverez beaucoup ça. Et donc là, un des disciples de Hassan al-Basri, qui s'appelle Wasl ibn Atta, qui est considéré par l'historiographie comme le fondateur du mutazilisme, Wasl ibn Atta serait levé, il aurait dit, avant donc que son maître parle, le musulman coupable d'une faute grave n'est ni un péché, ni un infidèle, ni un croyant, il est dans la position entre les deux. Et s'il fait repentance, taouba, et il demande pardon, bah dans ce cas-là, il deviendra, on le reconsidère comme un croyant comme les autres. Et donc à ce moment-là, il se serait... Wasl serait levé, il aurait quitté le groupe, le cercle du Tébé Hassan al-Basri pour aller s'appuyer sur un autre pilier de la mosquée. Et là, c'est la fameuse légende, il faut pas raquer de conscience, je suis obligé de la dire. Hassan al-Basri aurait regardé Wasl, il aurait dit Na'tazala anna Wasl, c'est-à-dire que Wasl s'est séparé de nous, Na'tazala anna, et ce serait de là que viendrait le nom de Mu'tazila, ceux qui sont retirés, sont séparés. Alors bon, pour moi, c'est une légende qui est largement racontée par l'historiographie et l'hérésiographie qui est très largement hostile au mutazilisme. Parce que quand on regarde d'autres sources, on a quand même des choses assez différentes, mais enfin, c'est pas le propos. Ce qui est intéressant ici, c'est la question du rapport entre la foi et les actes. Ici, dans cette question-là, la question du pardon, la question de la repentance, qu'est-ce qu'on a? On a le fait que, est-ce qu'on peut parler d'une solidarité absolue? Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut parler d'une importance qui est aussi grande entre la disposition du cœur et l'action des corps. C'est-à-dire qu'il y a ici l'harmonie, c'est-à-dire que la conception ici qu'on a de la foi, quand on regarde la question de la repentance et du pardon, il est nécessaire que ce dont on est porteur en termes de valeur, en termes de croyance, puisse aussi se traduire dans les actes, puisse aussi se vivre réellement, concrètement, et ne pas rester, comme disait William James, une sorte de vacances morales. C'est-à-dire, oui, je crois, mais oui, au final... Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. Quelqu'un qui se dit croyant, mais par exemple, la présence de Dieu n'est pas réelle d'un point de vue factuel dans sa vie, c'est-à-dire que ça ne change rien à sa vie concrète. Quelqu'un de la philosophie pragmatiste pourrait dire que Dieu n'existe pas pour cette personne-là. Parce que lui montrerait que Dieu n'existe pas puisqu'il n'y a pas d'impact réel sur la vie de la personne. Même s'il se dit croyant. D'accord ? Donc ici, la question qui est posée, la question de la repentance, sur une lecture Mu'tazila, on peut dire que c'est très important parce que chez les Mu'tazila, il y a une harmonie complète. J'ose pas parler de solidarité, mais il y a en tout cas une forte accointance entre la disposition du cœur et celle du corps, autrement dit des membres, c'est-à-dire entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre ce qu'on croit et ce qu'on agit. Ça, c'est quelque chose qu'il faut être, ça doit être en harmonie. Mais comme on part du principe que l'homme est faillible, il peut se tromper. Ça ne veut pas dire, se tromper ne veut pas dire que c'est fini. Au contraire, se tromper, c'est une possibilité de s'améliorer, justement. Et ça, c'est ce qu'on, c'est ce qui ressort quand on s'intéresse à la question. C'est-à-dire que souvent dans le Coran, la question de la repentance est associée avec le mot Islah. C'est-à-dire que Tawba wa Islah. C'est-à-dire que quand on fait retour vers Dieu, qu'est-ce qu'on fait en réalité? On utilise le Salah. Or, le Salah, c'est quoi? C'est traduit en français par la réforme, l'amendement. Voilà la réparation, la réconciliation. Tout ce qui ressort en fait de la.
Islah.
Du caritatif. Pardon ?
Islah, pas Salah.
Islah, oui.
Le Salah, ça veut dire c'est autre chose.
Oui, mais là aussi, on rentre sur le débat de linguistique qu'on a déjà eu la dernière fois avec quelqu'un d'autre, parce que la racine trinitaire des mots, quand on regarde la racine, elle est la même. Après, il va y avoir des extensions différentes, mais après, c'est toujours dire oui, mais c'est pas la même chose. Oui, sans doute, peut-être. Mais
cela, c'est réconciliation. C'est un autre de mon
Salah.
Pardon ?
Salah.
Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde, il y a toujours cette idée-là, en tout cas, du caritatif, si on veut. Du caritatif, pour parler de réparation,
de...
Par exemple, il y a. Alors moi, j'ai un certain nombre de versets. Enfin, je vous dis dans le Coran. Sachez que j'ai noté des. J'ai un nombre de versets à chaque fois, mais dans le but un peu d'être dans une discussion plus. Mais si vous avez besoin des références, n'hésitez pas à me demander. Je vous donnerai des références coraniques. En tout cas, l'idée qui est très importante, c'est que derrière l'idée de repentance, derrière l'idée de faire retour, il y a l'idée d'amélioration. Il y a une idée de. On peut se tromper, et se tromper n'est pas une raison pour que tout s'arrête, mais au contraire, ça peut être l'occasion d'une amélioration, d'une réparation, donc, ce qu'on voudra dire comme mot, mais en tout cas, une idée d'aller de l'avant et de continuer à évoluer, à avancer. D'accord ? Et je pense que c'est quelque chose qui doit être, à mon avis, souligné de manière très forte, parce que à partir du moment où vous reconnaissez la liberté humaine, comme dans le mutazilisme, le mutazilisme admet le libre arbitre, il admet l'optimisme mnéséologique, c'est-à-dire qu'on a des dispositions naturelles pour connaître, pour savoir, pour faire. C'est ce qui fait aussi que nous sommes des êtres libres, croyants ou non-croyants d'ailleurs, peu importe. Mais comme nous sommes des êtres libres, nous sommes capables de faire, mais qu'en même temps, derrière l'expérience nous montre, on est faillible, c'est-à-dire qu'on peut se tromper. Mais il y a finalement dans la révélation, puis dans la foi de manière générale, toujours possibilité de s'améliorer. C'est-à-dire qu'on a toujours possibilité de faire, de se tromper, mais de repartir. Ça me rappelle un peu la fameuse phrase, je crois que c'est de Confucius, Et notre plus grande gloire n'est pas celle de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque fois que nous tombons. Donc il y a toujours cette notion-là de, finalement, quand on regarde, la faute, l'erreur, peut être aussi une occasion d'apprentissage. Peut être aussi une occasion d'augmenter son expérience et sa connaissance. À partir du moment où on accepte de reconnaître, parce que quand on se repent, généralement on reconnaît sa faute, on se la reconnaît d'abord à soi-même, ce n'est peut-être pas si évident que ça. Et puis on la reconnaît aux autres, puisque quand on va réparer, se réformer, ou le mot que vous voulez, eh ben, il faut aussi réparer la faute envers autrui, si on a fauté envers autrui. Donc il y a toujours cette possibilité-là d'aller toujours dans une disposition d'accroissement, on va dire, d'amélioration. Toujours on est dans l'amélioration continue, en fait, quelque part. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. C'est bon ? Non ? Tu as parlé beaucoup ?
Non, ça va. Vas-y, si tu peux continuer.
Non, mais en fait, ce que j'ai... En fait, j'avais développé beaucoup plus de références coraniques, plus de taille, j'allais dire, entre guillemets, technique. Mais bon, comme je disais aussi au début, que ce serait pas mal qu'on puisse vraiment voilà, quoi, être dans un échange avec tout le monde. Donc voilà, si mon propos n'est pas très clair, si vous avez des choses qui sont restées obscures ou quoi, c'est parfait. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et puis en même temps, on verra ce que chacun peut aussi en dire et comment vous percevez la chose vous-même. D'accord ?
Oui.
C'est le tour ou chacun...
Comme chacun peut réagir, mais j'ai juste une première question. Comment tu, par rapport à tout ça, comment tu englobes la notion de El Rafar et du El Rafur, du rafle, vraiment de la notion de pardon, et le fait que cette racine en arabe signifie vraiment recouvrir, il y a cet aspect-là. Et comment tu peux la mettre en lien justement avec la conception mutazilite de la repentance et,
En fait, je ne mets pas tellement en lien juste cette conception-là ou ce mot-là, je prends de manière plus large. Mm-hmm. C'est-à-dire que dans le Coran, il y a la terminologie qui est utilisée pour parler de toutes les concepts, de toute la question finalement de la compassion, du pardon, de l'amour, de la miséricorde, mm-hmm. tout ça. Pour moi, c'est un tout en fait. Je le pense que globalement. Après, je pense que on peut effectivement avoir une approche plus détaillée, c'est-à-dire terminologique au sens de chaque mot pour voir qu'est-ce qui y est de différent. Parce que c'est vrai qu'on utilise deux mots différents, c'est que sans doute il y a une nuance, il y a quelque chose de plus dans un mot par rapport à, en tout cas de plus, en tout cas de différent entre un mot et un autre. Mais moi, je suis resté vraiment à la manière très globale. Et c'est vrai que quand tu parles de recouvrir, il y a aussi un verset, alors je ne sais plus c'est lequel, où par exemple, quand quelqu'un s'amende, quelqu'un reconnaît Dieu et qui va vers Dieu, et le verset il dit Wallah, yukafiru. C'est-à-dire que Dieu va recouvrir. Kofre ici, c'est au sens vraiment de l'arabe littéral. Kafara, c'est recouvrir. D'accord. Et donc là, c'est Dieu qui recouvre les péchés. Parce qu'on est vraiment dans la notion à chaque fois de la faute qui est faite. Elle a été faite, mais c'est bon, on peut passer à autre chose.
Ça rejoint aussi un hadith qui dit que le jour de la résurrection, dans notre livre, Dieu il cachera certaines fautes, même dans le livre. Je
ne
sais pas si vous voyez
tout ce... Je ne vois pas ce hadith là, j'arrive pas à me rappeler de ce hadith là au juste, mais en tout cas, la question en tout cas de recouvrir, ici on dit effacer, nous on a tendance à penser à effacer les fautes, en fait c'est... Effacer, c'est comme si elle n'existait pas, alors que recouvrir, elle est là, mais seulement elle est plus, elle n'a plus de cet impact là de négatif.
Je dirais qu'elle est plus un poids même, en fait, enfin, qui va te faire rester un peu dans le passé et de ne pas pouvoir aller de l'avant. Il y a cette idée-là aussi dans le fait de recouvrir, je pense. Ça te permet de passer à autre chose. Sans que ce soit effacé, effectivement.
Ça. Oui, parce que s'il y a effacement, on peut tout se permettre. S'il y a effacement, si après on peut tout faire, et bien si effacé, c'est parce que ça ne sert à rien. Quoi.
En même temps, on a quand même la réalité empirique, entre guillemets, c'est que quand on a tous nos vies, nos vécus, nos réalisations, on a tous connu des choses plus ou moins bonnes, plus ou moins mauvaises, mais en tout cas, tout ce qu'on a connu, on ne l'oublie pas. C'est-à-dire que ça s'accumule, ça nous construit aussi. Après, on peut se dire que ouais, ça je ne referai pas, par exemple. Ça, par contre, serait bien que je repasse. Vous voyez ? Et si on efface à chaque fois, on est un peu condamné à revivre.
Eh oui, mais oui.
Donc, c'est pour ça que cette notion-là est pas mal. Merci d'avoir posé cette question, parce que j'avais pas fait.
Quand on parle de recouvrir, moi, ça me fait une image. Ça me fait penser à une tombe où on enterre le péché qu'on a fait, mais la tombe est toujours là et on y revient ou on peut y revenir toujours régulièrement pour s'en rappeler. Donc ça, c'est un peu l'image que ça me donne.
C'est pas mal, mais j'aime bien. Oui, parce que c'est vrai que cette idée-là, elle est quand même très importante. Peut-être qu'elle est un peu sous-estimée en réalité, mais cette question-là, elle est vraiment importante parce que nous sommes finalement l'accumulation de nos expériences, donc bonnes et mauvaises. Et c'est pour ça que c'est intéressant que Dieu il recouvre les fautes et non pas qu'il les balaye d'un coup, comme si elles n'existaient pas.
Juste une petite question, en fait, il y a la sourate du repentir, en fait, qui n'a pas été abordée, je ne sais pas si...
Non, il y a des...
La sourate... Ça a un rapport avec le... Donc forcément, je pense que ça vaut la peine.
Oui, dans la sourate, ce qui est intéressant, c'est que c'est la sourate. Je prends la notice de Berck parce que c'est la seule sourate du Coran qui commence sans la formule, la fameuse basmala.
Bismillah.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Or, c'est quoi d'ailleurs la raison pour laquelle.
Justement, c'est ça que je reprenais le. Il y a plusieurs théories.
Il y a une théorie qui dit que ce n'est pas une sourate à part entière, que c'est la suite d'une sourate. C'est pour ça qu'il n'y a pas un début. Ouais. Après,
ce que je pense, je ne sais pas, c'est le ressenti que j'ai eu, c'est que c'est une sourate révélée, spécialement pour les polythéistes et les prophètes. Et que c'est, pour moi, c'est une certaine manière de montrer qu'il n'y a pas de miséricorde pour les polythéistes et les prophètes.
La miséricorde sur tout le monde.
Ah non, mais c'est dans le Coran, ma miséricorde, je la réserve pour ceux qui font la prière et donnent la zakat.
Il y a la définition que je voulais dire tout à l'heure en parlant de la foi, il y a la définition de la foi, qu'on appelle, c'est un verset qui est tellement fondamental que je crois que j'en parle à chaque fois. C'est le verset 177 de la sourate 2, qu'on appelle en arabe Eitel Brr. C'est-à-dire que c'est le verset. Qu'on pourrait traduire, et j'essaie de traduire tout à l'heure chez moi. Regarde. C'est très compliqué. C'est Berck qui traduit en disant que le summum de la piété, il me semble. Vraiment, en gros, Eitelber, ça définit ce qu'est la foi. Il dit la foi, c'est ça. Et quand on voit Eitelber, donc je la lis en français peut-être, je la lis directement en français, elle est très, très, très importante parce que. Elle est justement, on parlait d'actes et de, par exemple, de zakat ou salat, de rites, et puis on va voir ici. Elle dit, la piété ne consiste pas à tourner votre tête du levant au couchant, mais la piété consiste à croire en Dieu au jour dernier, aux anges, à l'écrit, aux prophètes, à donner de son bien pour attacher qu'on y soit, aux proches, aux orphelins, aux miséreux, aux enfants du chemin, aux mendiants, et pour, entre parenthèses, l'affranchissement des nuques, donc des esclaves, à accomplir la prière, vous voyez ce que ça vient à accomplir la prière, c'est après, à accomplir la prière, à quitter la purification, à remplir les pactes une fois conclus. Ça, ça semble rien de dire ça, mais c'est quelque chose. À prendre patience dans la souffrance et l'adversité, au moment du malheur, ceux-là sont les véridiques, ce sont eux qui se prémunissent. C'est-à-dire qu'ici, on voit bien qu'il y a une disposition. La foi n'est pas simplement de faire la salette et les
zakat.
La foi, c'est une harmonie. C'est une harmonie globale. C'est une harmonie globale. C'est une harmonie. Mon rapport au mondain. Le mondain ici n'est pas dans le sens mondain. On peut l'entendre dans les magazines. People, c'est pas le people, mais le mondain dans le sens dans le monde. L'activité ici, dans le monde, temporelle. C'est du spirituel. C'est mon rapport avec l'un. C'est ce qui se passe dans mon esprit. Et mais aussi comment mon esprit doit aussi guider mon acte.
Il y a le célèbre hadith de l'islam, l'imam et l'ihsan.
Oui.
qui définit justement toutes ces étapes-là. Donc ce dont vous parlez, c'est plus l'islam, c'est le fait de
ouais, c'est la,
connaître les fonds, enfin, en tout cas de
c'est la pratique rituelle.
Les piliers, voilà, les pratiques rituelles et les piliers de l'islam. Il y a d'autres que, niveaux.
Déjà, dans Surat Tawba, l'histoire pour moi qui ressort le plus, c'est l'histoire des trois personnes qui n'ont pas voulu suivre le prophète pour aller faire la bataille de Tabouk, je crois.
C'est Tabouk.
Et que justement, c'est pour ça que le chapitre s'appelle le repentir. Parce que ces trois-là, ils ont dû se repentir du fait qu'ils n'ont pas suivi le prophète dans la bataille de Tabouk. Et ils ont été considérés en fait comme des hypocrites, ils ont été reniés par tous les musulmans. Ils ne les regardaient même plus, et jusqu'à ce que Dieu révèle des versets pour montrer qu'il leur a pardonné.
C'est des frères, les trois, il y en a deux qui ont menti, entre guillemets, ils ont dit on était malades, on n'avait pas
truc.
Et le troisième, il a dit la vérité, il a déjà dit tout ce qu'il faut, mais ça, je ne suis pas là. J'ai fauté. Donc les deux autres, elles étaient pardonnées, et le troisième, il a été banni. Que personne ne lui ait parlé pendant à peu près un mois, 30 jours. Ouais, et après, à la fin, le Coran est descendu pour le relever. Ouais. Voilà, c'est un peu le hadith.
Juste une remarque.
Juste un truc par rapport à la Sourate Tawbah, c'est que ce n'est pas le seul titre de Sourate Tawbah. Il y a l'un des notre nom, je ne sais plus c'était quoi, mais il y a.
Non. Après, c'est les noms de Sourate, ça ne veut pas dire.
Ce
n'est pas le résumé de la Sourate. Hein. C'est juste un nom donné.
Ou la dénonciation en français, c'est. Je ne sais pas comment c'est en arabe.
Dénonciation.
Enfin, pardon, oui.
Alors, je pense que d'abord, il faut contextualiser tout ça. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit dans les hadiths ou dans la sirah. Parce que ça a été dans un contexte politique où la religion a été instrumentalisée à des fins politiques. Nous savons bien que ceux qui disaient que les actes des êtres humains sont déterminés par Dieu, c'est le pouvoir politique, pour dire que je suis là par la volonté de Dieu, et donc vous n'avez pas à contester. Le mu'tazilisme a constitué une contre-culture. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il était expurgé. Il est devenu tellement gênant qu'il était expurgé. Pour revenir à ce que vous dites, d'abord, pour la sourate Tawbah, c'est quasiment établi que ce n'est pas une sourate. C'était la moitié d'une sourate, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de basmala au début. L'histoire, par contre, telle qu'elle était donnée, c'est l'histoire officielle, y compris la compilation du Coran. La compilation du Coran, elle était faite par Othman, le troisième calife, de manière qui n'a rien à voir avec la chronologie des sourates, mais qui était plutôt des sourates les plus longues jusqu'aux plus courtes. C'est-à-dire que c'est un choix quasiment délibéré, et c'est devenu un dogme dans le monde sunnite. Et on sait que le sunnisme a été quasiment l'idéologie dominante de l'islam quand il était pris en main par les Omeyyades. Les Omeyyades en ont fait une religion, et on peut dire carrément que l'islam majoritaire aujourd'hui, ce n'est pas l'islam de Mahomet, c'est plutôt l'islam de Mouawiya, fondateur des Omeyyades. Le gros de toutes les définitions, y compris l'histoire des cinq piliers, etc., c'est un hadith qui est plus que douteux, dans son origine plus que douteuse. Le hadith des cinq piliers, c'est pour dire, écoutez, la liberté, la justice, etc., c'est vraiment pas le plus intéressant. Contentez-vous des cinq piliers et le pouvoir politique s'occupe du reste. Donc, il faut prendre très, très... je reviens au hadith du temps d'Abu Hanifa, par exemple, le premier jurisconsulte sunnite. Il avait en sa possession 13 hadiths seulement. 80 ans après le temps de Mousnad, de Ahmad ibn Hanbal, il y avait 1 million de hadiths. Même des lapins ne vont pas procréer à cette vitesse-là. Donc le hadith, c'était l'instrument, c'est un instrument du pouvoir politique, c'est aussi quelque part un instrument, je dirais, mais là c'est un autre débat, c'est l'instrument de l'Arabie anti-islamique qui était défaite après la bataille de la Mecque, et qui est revenu après. D'ailleurs, quand Mouawiya a pris le pouvoir, son père, Abu Sufyan, est allé sur la tombe de Hamza pour dire « Oh Hamza, les choses pour lesquelles on avait des différends nous est revenu finalement. » Donc, il faut vraiment faire le distinguo entre le dogme tel qu'il était, il nous est arrivé aujourd'hui, et c'est quasiment une production humaine. Ce n'est pas quelque chose de religieux, c'est une production humaine. C'est des interprétations qui ont été faites. Et le texte coranique lui-même, qu'il faut revoir dans son évolution chronologique. C'est-à-dire contextualiser, voir les circonstances, etc. Et je pense que c'est ce qui fait que les Mu'tazilites étaient gênants. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les chiites, qui étaient les opposants politiques de cette époque-là, étaient tous Mu'tazilites. Tous. Toutes tendances chiites confondues.
Mais pas au début, ils sont venus après.
Non. Toutes les tendances Mu'tazilites, toutes les tendances chiites ont été Mu'tazilites. Après la naissance du Mu'tazilisme, bien entendu. Ils le sont encore. Aujourd'hui, soit les duodécimains, les gens de l'Agacan, etc., tous ils sont Mu'tazilites. Bien entendu, un Mu'tazilisme a une sauce bien déterminée, c'est une lecture bien déterminée.
Je me fais variable.
Voilà. Mais ceci étant, il faut faire très très attention parce que tout ça, c'est une construction humaine. C'est une construction humaine, y compris les interprétations qui ont été faites du Coran. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, toutes les interprétations du Coran, ça tourne autour de quelques figures. Vous n'entendez jamais les gens faire référence à Zamakhshari, par exemple. Zamakhshari, pourquoi ? Parce qu'il était Mu'tazilite. C'est l'un des interprètes, disons, du Coran qui était Mu'tazilite. Main basse sur lui. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens qui sont en Arabie Saoudite, les salafistes d'Arabie Saoudite, qui ont produit, entre autres, M. Ben Salman, qui défraient la chronique, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, ce sont des impies, que ce soit les Mu'tazilites, les chiites, tous ceux qui font appel à la raison sont des impies. Et donc, dans ce système-là, ils mettent d'ailleurs le hadith au même niveau que le Coran. Ils disent que le hadith est une révélation divine.
Ça peut même abroger des versets du Coran.
Oui. Ils disent que ça peut même abroger. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, par exemple en Arabie Saoudite, pour vous montrer la construction, vous pouvez très bien critiquer le quatrième calife Ali sans aucun problème en Arabie Saoudite. Vous pouvez le critiquer. Si vous critiquez le premier calife Omeyyad, ben alors là, c'est la prison qui vous attend. Il y avait d'ailleurs un feuilleton de Ram qui était fait sur Amr ibn al-As, l'un de ceux qui se sont convertis à l'islam après la Mecque, donc l'un des derniers qui se sont convertis, et dont ils disent que dans les derniers épisodes, ce Amr ibn al-As, qui était le gouverneur de l'Égypte, Omeyyad, il a senti qu'il était coupable, il demandait pardon à Dieu parce qu'il aurait suivi Muawiyah, le premier calife Omeyyad, qui avait tort, il avait laissé tomber Ali parce qu'il avait besoin d'argent, de pouvoir, etc. Et les Saoudiens, ils ont passé les premiers épisodes, quand ils sont arrivés à celui-là, ils ont censuré le passage, tout le truc était censuré, il était plus interdit, il ne passera plus parce qu'on ne peut pas interdire quelqu'un qui était pour le pouvoir absolu, parce que l'enjeu c'était celui-là. Donc quand vous entendez des choses sur l'islam, etc., il faut voir déjà quelle est la part du pouvoir politique qui est derrière. Qu'est-ce qui relevait vraiment de la religion et qu'est-ce qui relevait du pouvoir politique et donc d'une construction purement humaine.
Je voudrais revenir justement sur ça. Effectivement, c'est fondamental de distinguer ce qui est historique, conjoncturel, et ce qui est plutôt universel de l'ordre du métaphysique ou du questionnement existentiel. Et moi, j'irais même encore plus loin que ce que vous dites. C'est Muawiyah, certes, il a été complètement glorifié par la suite, mais très concrètement, les Omeyyades, ils n'ont pas fait grand-chose du point de vue religieux. Ce sont aussi des Abbasides, beaucoup. Du côté des Omeyyades, allez, on va dire Abdelmalik a fait quelque chose de fondamental, c'est qu'il a vraiment mis la prophétie mohammedienne vraiment au sommet, en fait, de la hiérarchie pour en faire un projet politique, et notamment un projet politique contre les chrétiens, contre les juifs, contre les Ahl al-Kitab, notamment avec la construction du Dôme du Rocher. Mais très concrètement, les Omeyyades, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont surtout fait politiquement, effectivement, ils ont fait territorialement, etc. Mais après tout, ce sont les Abbasides qui, au bout d'un moment, se sont dit mince, il y a quand même beaucoup de sectes qui se sont formées entre les chiites, les Mu'tazilites et tout un amas de différents groupes qui s'étaient formés contre le pouvoir omeyyade. Les Abbassides, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu uniformiser tout ça. Et ils ont voulu dire, au bout d'un moment, on va faire quelque chose de commun à tout l'Empire. Et c'est sous les Abbassides qu'on a les plus grands recueils de hadiths, qu'on a l'écriture vraiment d'une historiographie complètement mythifiée en fait, de l'Islam. Non,
en fait, il y a eu des hauts et des bas, en fait.
Quand tu regardes
la construction en fonction des califes abbassides, il y a eu beaucoup de diversité. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu les premiers califes abbassides, il y avait quand même une large liberté qui était donnée d'un point de vue de large liberté, avec des guillemets. Parce que ça a été aussi. Quand ils ont eu besoin de mobiliser un argument pour taire tel ou tel, ils ont su le faire. Mais c'est vrai qu'il y a eu. Quand tu regardes, ce que je veux dire par là, c'est quand tu regardes par exemple, ce que produit Abu Hanifa. Je prends Abu Hanifa. Tu prends ce que produit Ahmed ibn Hanbal. C'est tous les deux. Alors Abu Hanifa, il est à la fin de. Au début de l'époque abbasside, à la toute fin omeyyade, début abbasside.
Il a vécu les deux périodes.
Pardon ?
Il a vécu les deux périodes.
Ouais, il a vécu les deux périodes. Mais quand on prend Abu Hanifa, il va avoir pour successeur les deux grands divs, Muhammad et Abu Yusuf. Et Abu Yusuf sera le premier qadi Qudat, c'est-à-dire le premier qui sera nommé par le calife. On peut dire qu'il y a une postérité hanafite assez rapide. Quand on voit ce qu'ils ont produit, donc, que ce soit Abu Hanifa, que ce soit Abu Yusuf, Muhammad al-Shaybani, et tu vois Ibn Hanbal et les successeurs d'Ibn Hanbal, le panel est quand même.
En fait, je pense que la rupture, elle arrive dans la deuxième moitié du 9e siècle. C'est-à-dire là.
Même après Mutawakkil, largement après Mutawakkil, c'est je pense au Qadr.
Al-Qadr,
lui, il a fait sa fameuse épître en 2017. Et je pense qu'en 2017, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Qui est...
Mais ça correspond aussi, d'un point de vue politique, à la fragmentation, encore une fois, du territoire musulman. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où le territoire musulman se fragmente totalement, on ressent un besoin, d'un point de vue religieux, d'homogénéiser tout ça. C'est une contre-réforme, j'ai envie de dire. C'est une réaction, en fait, c'est une réaction à toute la diversité qu'il y a.
Une question pour revenir. Pour Iqamat al-Hudud, l'application de la charia, en fait, quelqu'un qui commet par exemple une erreur, quand on parle de repentance, de tauba, quelqu'un qui commet une erreur, donc il va se repentir envers Dieu, il va faire quelque chose de bien, etc. C'est quand même quelque chose d'intérieur. Mais qu'en est-il de la personne qui a commis un délit ou quelque chose de blâmable et qu'on n'aurait pas les hadouds? On applique la sentence. Qu'en est-il de sa tauba à lui intérieur?
Juste clarifier un peu la question, parce que ici on n'est pas dans. Enfin, l'approche qu'on a aujourd'hui de la religion, c'est que c'est pas une approche. On n'a pas de droit positif. C'est-à-dire qu'on n'a pas.
D'accord.
On n'applique pas. Déjà nous, on n'est pas en état d'appliquer de had, et heureusement.
Heureusement.
On ne peut pas appliquer de had. Donc la question ne se pose même pas à ce niveau-là. Après, on peut la poser d'un point de vue ontologique, d'un point de vue métaphysique. Pour nous, comment on le vit, comment on peut comprendre ça. Moi, sur le had, la notion du had, tout ce qui est dans les versets coraniques qui sont très techniques, où on a des appréciations qui sont clarifiées avec des conseils précis, pour moi, ça, il faut comprendre ce que je veux dire. C'est que quand on dit mutashib, c'est dans le sens, pourquoi je dis ça? Parce que je sais que je suis complètement à contre-courant de ce qui se dit classiquement, parce que la théologie classique, on dit quand on a une donnée qui est fiable, du style deux témoins femmes pour un homme, quand on a des choses précises, ça veut dire que là, on n'a pas à faire de l'ijtihad et donc on prend tel quel. Moi, mon souci, c'est que là, la contextualisation, la question du rapport à l'histoire, c'est que le Coran s'adresse à la fois à un public précis qui est là à l'époque, qui est celui de l'Arabie occidentale du 7e siècle, et en même temps, à un public lointain, qui est un deuxième niveau, nous, qui ne sommes pas en Arabie occidentale du 7e siècle, et qu'on vient à notre époque. Donc du coup, comment on lit? Comment on lit les versets? Quand dans la sourate Al-Imran, donc la famille d'Imran, au verset 7, l'ayat mutashabihat, l'ayat mukhtalif, le mot mutashabih m'intéresse. Parce que quand on regarde les versets dont je parlais là, qui sont très précis, avec une dose précise... les flagellations sans coups, etc. On a ici des choses qui semblent être précises, c'est net. Et pour, si j'étais un arabe d'Arabie du 7e siècle, je serais dans la position optimale, puisque j'aurais le discours qui s'adresse à moi directement dans ma vie concrète maintenant, comment j'agis. Et en même temps, j'ai aussi l'accès à celui que les gens qui vont venir après auront, même si après cela ne m'intéresse pas, puisque ce n'est plus ma réalité. Donc ça veut dire que moi, au 7e siècle, j'ai ce qu'il faut. Donc, j'ai les 100 coups, je pratique, etc. Maintenant, quand on prend du temps, les données épistémologiques, c'est-à-dire notre état de connaissance, notre état de conception du monde, nos rapports avec autrui, tout ça a évolué. Tout ça a changé. Tout a changé. Du coup, est-ce que je peux, moi, reprendre les versets qui sont aussi précis avec 100 coups de fouet, par exemple, aujourd'hui ? Je veux dire, dans un contexte qui est complètement différent.
Il y en a beaucoup qui en parlent.
Mais qui ?
Ah ben si, ils veulent l'appliquer.
Mais il ne le faut pas, quand même.
Ouais. Non. Moi, enfin, je ne sais pas ce que j'ai dit sur Facebook. Il m'a dit, vous méritez 80 ouais. Passants. Je ne sais pas pourquoi. 90
fois. Non, tu as dû parler d'alcool. Parce que tu es une gentille. Tu as dû parler d'alcool.
Ouais, c'est ça. C'est 80. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est peut-être, oui, dépassé. Mais ma question, Fakir, ce n'était pas dans ce sens-là. Moi, ma question, c'est juste par rapport à ce... Si jamais à une époque dans un monde imaginaire qui n'existe pas et qu'on applique ça par exemple sur quelqu'un, qu'en est-il de lui vis-à-vis à Dieu ? Comme il est dans Manzila ben al-Manzilatayn, il a commis une faute.
Ouais.
D'accord. Donc est-ce que cette faute-là, qui, si jamais il meurt, s'il se repentit, il devient mu'min, il devient croyant, il n'y a pas de souci. Mais si jamais il ne fait rien, il va mourir comme ça, donc il est.
Bah là, il meurt
quatre. Il est quatre. Donc la position intermédiaire, elle est juste. Pendant sa vie.
Oui, c'est
d'accord. Et si, donc là, s'il revient, ça, c'est clair. Mais si on applique sur lui le had, par exemple, est-ce qu'il devient donc mu'min, même si à l'intérieur de lui, il n'est pas convaincu ?
Ah non. Là,
c'est un peu plus technique.
Merci, parce que du coup, c'est plus
clair. Non, c'est pas l'autre.
Non, mais la chose quand même qu'on lit le Coran, qui paraît quand même claire, c'est que la repentance, elle doit venir de celui qui a commis la faute. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir lui imposer un coup de repentance dans la gueule. C'est pas, ça ne marche pas. Ce que je veux dire, c'est que, comment on s'amende ? On s'amende à partir du moment où on reconnaît qu'on a fait une faute. On reconnaît qu'on a fait quelque chose qu'on n'a pas dû faire et que du coup, il ne faut plus qu'on le refasse. C'est la fameuse, je ne sais pas si c'est un proverbe biblique ou si c'est, vous me direz, mais le fameux... errarum humanum est, perseverare diabolico.
C'est un proverbe latin.
Proverbe latin. L'erreur est humaine, persévérer dans l'erreur est diabolique.
Voilà.
Bon. Ouais. Là, quand on a repentance, généralement, hein, je ne sais pas, par inadvertance, ça peut arriver. Qu'on se trompe et qu'on commette une autre faute, ou, etc. Mais par inadvertance. D'ailleurs, c'est ce qui est dans le Coran, c'est dit à plusieurs reprises. Mais, généralement, quand on se rend compte que je ne savais pas que ce n'était pas bien et je fais un truc et je m'aperçois que ce n'est pas bien, il y a quand même de fortes chances que je ne le refasse plus après. Tu vois ce que je veux dire ? Après, imaginons le cas d'un monde... Hanafi, ils aiment bien ça. Un monde, on dit, fais une loi, qui s'inspire de l'islam. Ben, moi, si je fais une loi qui s'inspire de l'islam demain dans un groupe humain, ben, il n'empêche que demain dans un groupe humain, je serai au moins après dans le 21e siècle. Donc, il y aura plein de siècles qui vont passer. Et du coup, je ne pourrai plus aborder le texte de la même manière. Je serai obligé de penser les choses de manière différente. Et si on prend le cas de Omar, sur les Hudoud, le calife Omar, à un moment, il a suspendu les peines corporelles. Il a dit, mais comment ça se fait ? Il a dit, c'était une époque de sécheresse. Et il dit, l'époque de sécheresse, donc famine, et donc quand les gens ils ont faim, bah, les gens ils finissent par avoir recours aux pires choses, donc au vol, et puis éventuellement à d'autres choses. Et lui, par exemple, on ne coupait pas les mains. Et quand on lui a dit, mais béda, il a dit, mais pour que le had puisse être appliqué, il faut que les conditions elles soient réunies. C'est quoi les conditions ? C'est qu'il faut que tout le monde ait un toit au-dessus de la tête, que tout le monde mange à sa faim, que tout le monde a un endroit où dormir, etc. Et si tout le monde a tout ce qu'il faut, et que les gens volent, là on peut appliquer le had.
Là, si on... jamais, quoi.
Pardon ?
Oui,
mais c'est vrai.
Il y a des gens qui dorment dehors aujourd'hui.
Bah oui, il y a des gens qui dorment dehors, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, il y a des gens qui ont ceci et cela. Et du coup, quand on regarde, puis il y a des cas maintenant de plus en plus, on en parle, des gens qui vont voler de la viande dans les supermarchés, etc. Quand les gens, ils volent de la viande, ils ne vont pas venir leur couper la main. C'est-à-dire, c'est... Bon, en tout cas, le truc, c'est que c'est clair que... Si je parlais de Moutachev, pourquoi je parlais de Moutachev ? Parce que le côté où on a des peines, les peines corporelles, elles sont considérées comme mort à mer, c'est-à-dire que c'est décisif. Non, non, je parle de classiquement. Hein, je parle de classiquement.
Ils ne sont pas d'accord sur ce qui est décisif, ce qui n'est pas décisif.
Non, non, je ne parle dans la théologie classique, ce qu'on apprend à l'école si tu vas faire des cours pour devenir imam, par exemple.
Ouais.
On va te dire que dans les versets où il y a le détail, où il y a le détail, il n'y a pas de place en fait à l'interprétation, puisqu'on a le chiffre précis, on a ce qu'il faut, donc il n'y a pas de place à l'interprétation, donc ce n'est pas soumis à l'ijtihad. Donc on applique. Et justement, ça pose problème, parce que on peut le comprendre jusqu'à un certain contexte, mais après, vu l'évolution et tout, on peut plus avoir la même réflexion et le même rapport au texte. Du coup, comment on fait ? Ben, on va essayer de voir les versets dans lesquels on est dans le principe général. Parce que le principe général, l'avantage c'est quoi ? C'est que le principe général, que ce soit au 7e siècle ou que ce soit aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a l'essence des choses qui est dite. Ben, c'est ça. Et du coup, on va aller voir, bon bah, ok, alors là, il me dit c'est pas possible, là c'est pas possible, mais sachez que, bah, sachez que, donc c'est quoi ce sachez que ? On va avoir d'autres versets qui vont nous dire ça sur les awèges, sur les mariages. On a des choses qu'on peut faire, on peut pas faire, détaillées. Et puis il y a des versets qui nous disent, qui sont généraux, du style, ça c'est un signe de Dieu. Le mariage, c'est le mawadda wa rahma. Et ça, c'est eya, c'est-à-dire que c'est l'amour et la compassion, l'amour dans le couple et la compassion. Et ça, c'est un signe de Dieu. Là, tu comprends que le mariage, si on prend l'essence du mariage, c'est la compassion, c'est l'amour entre les époux, et c'est la compassion entre chacun. Et ça, c'est 7e siècle aujourd'hui, et tout le temps encore. Tu vois ce que je veux dire ?
Je voulais revenir à cette notion de repentance, effectivement. Tu dis, il faut reconnaître qu'il y a une espèce de prise de conscience. Mais la repentance se fait vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Vis-à-vis de qui elle va se faire. Et puis, la demande de pardon, est-ce que c'est la même quand on demande pardon à quelqu'un de notre entourage ou on demande pardon à Dieu ? Comment sait-on qu'est-ce qu'on va pardonner ? Alors, on disait tout à l'heure qu'il efface et le recouvre. Et on pense, effectivement, certains auteurs ont dit, quand il efface, quand on oublie, c'est que Dieu a pardonné. Quand on oublie la faute qu'on a faite, c'est que Dieu a pardonné. Troisième question qui n'a rien à voir avec les deux autres. Je me suis demandé si les Mu'tazilites ont créé un droit positif à leur époque. C'est vrai qu'ils n'ont pas été... puisqu'ils ont dit que le Coran était créé, pourquoi ne pas penser, n'avoir pas pensé à créer un droit positif qui n'a rien à voir avec... avec ce que dit le Coran.
Question très intéressante. Oui. Je vais revenir dans l'ordre. Dans le Coran, il y a tous les versets qui parlent de repentance disent Dieu systématiquement accepte la repentance. Parce qu'il y a le verset que je retrouve, verset qui est très important pour comprendre ça, qui est le verset de la sourate, de la sourate 6, verset 54. Je vous lis en français. « Que viennent à toi ceux qui croient en nos signes, et bien dis-leur le salut sur vous. Le Seigneur s'assigne à lui-même la miséricorde. » Ce qui se dit en arabe, « Kataba rabbukum ala nafsihir rahmada. » C'est fort. Le mot « kataba » dans le Coran n'est pas un mot neutre.
On ne sait pas trop comment le traduire.
Hein?
On ne sait pas trop comment le traduire.
Ben justement, en fait, dans le contexte, là, ce qui est le plus marquant dans ce verset-ci, c'est que quand on dit « kataba alaykum », Allah « kataba alaykum », Kataba, le mot kitab, d'ailleurs quand on prend Anne-Sylvie Boilibo par exemple, qui a fait une recherche là-dessus, elle vous dit le mot kitab renvoie nécessairement à un discours, à quelque chose qui a à voir avec le divin, mais qui s'adresse aux humains. Le mot kitab, et c'est pas livre, hein, c'est quelque chose de plus... Ça relève de la manifestation divine. Ça peut être une manifestation dans le livre...
C'est comme on parle dans la roche, quoi, une fois que c'est écrit, ça...
Il y a le kitab al-mastour, qui est le livre écrit, Coran, Révélation, Bible, etc. Et puis il y a le Kitab al-Mandur ou Kitab al-Mubin, qui est le livre manifeste, qui est la nature, en fait, qui est l'existence, tout ce qui est. D'accord ? Donc dans le mot Kiteb, on est plutôt dans quelque chose qui vient de Dieu. Mais là, dans ce verset-là, ce qui est particulier, c'est que en arabe, c'est Kataba Rabbukum ala nafsihi. Je crois effectivement que c'est la seule fois où on a le Kiteb qui est adressé.
C'est la seule fois où
Dieu,
dans le verset,
dit sur lui-même.
Sur lui-même, il dit que
c'est voilà, il s'est donné une prescription, si on veut, une règle sur lui-même, qui est quoi ? C'est la rahma. C'est-à-dire que si vous commettez, sur les questions du rite, pour revenir à la question du rite, si vous commettez, vous ne pratiquez pas le rite, ou si ça ne va pas, ou si vous ne jeûnez pas, ou si, enfin bref, ou vous commettez des choses qui vous regardent vous. Vous-même, seulement vous. Il n'y a pas une chose ?
Si, à la
barre. Non, là. Si on commet une faute soi-même, on se fait du mal à soi. En fait, si on prend les versets, celui-là notamment, c'est que Dieu, systématiquement, il y a pardon. Là où c'est plus compliqué, c'est ça où c'est paradoxal. Le pardon est plus compliqué quand on a fait du mal à quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut que l'autre accepte notre pardon. Pour que vous soyez pardonné. Dieu, si le problème c'est entre vous et Dieu, si on prend les textes, il n'y a pas de souci. Si vous êtes dans une démarche sincère, évidemment. Parce qu'il y a un verset aussi qui dit, ceux qui voient la mort arriver, qui disent « Oh, je me repens », alors que bon,
c'est trop tard. Fiche.
C'est même pas que c'est trop tard, c'est que c'est pas du repentir. Et Dieu, il sait que là, on a affaire à des gens qui font la comédie. Donc cela, on ne peut pas parler de repentance. Mais ceux qui sont vraiment dans une démarche sincère de repentance, eux, ils n'ont pas à s'inquiéter. Par contre, quand il y a une tierce personne dans l'équation, là, il faut vraiment réparer sa faute. Alors, corriger sa faute, comment on fait pour réparer, corriger, etc. C'est là où ça va être plus compliqué. Wow. Juste une dernière chose, pour répondre à la dernière question.
Hein ? Après toi, je réponds aussi à la dernière.
Ah oui, parce que c'est l'historienne, c'est...
Non, c'est pas ça, mais...
mais non, mais ce qui m'intéresse par rapport à la norme, Ce qui est intéressant à noter, c'est que il y a beaucoup d'auteurs, je pense à André Michel, par exemple, qui est un grand islamologue, enfin, orientaliste, on disait plus de son.
Il est plutôt
un littéraire. Oui, c'est un littéraire, mais enfin bon, il a beaucoup, il connaît bien l'islam, et il a écrit un livre qui s'appelle Les Entretiens de Bagdad, que je vous conseille tous, parce que c'est vraiment un livre extraordinaire, qui reprend en fait toute sa carrière d'islamologue et de spécialiste, et c'est le seul livre dans lequel il crée une histoire, il écrit un roman à partir de données historiques, mais il le dit, c'est un roman, c'est pas une... Il fait rencontrer plusieurs personnages qui l'ont marqué, même s'ils n'étaient pas forcément de la même époque, de tendances différentes, des Moutazili, des Achari, des Chiites, des machins, et il fait fructifier, c'est vraiment... Les Entretiens de Bagdad, c'est vraiment extraordinaire. André Michel, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, Al-Ma'moun, alors, ça n'a pas été le seul calife Moutazilite, mais en tout cas, ça a été le plus marquant sans doute. Al-Ma'moun, il a fait la mehna. Il a mis en place la mehna. Alors, l'hérésiographie, et puis aujourd'hui, on continue de pleurer quand vous parlez de la mehna. Oh, le pauvre Ibn Hanbal, il a souffert dans sa chair. Bon, ok, mais enfin, bon, Ibn Hanbal, il a vécu. C'est pas bien, hein, il s'est pris des coups, c'est pas bien. C'est pas bien. Franchement, il aurait pu éviter. Surtout Ibn Hanbal, c'était quand même pas le pire. Hein. Ses disciples, par contre, c'était des fous, mais lui, ça allait encore. Mais là, ils n'auraient vraiment pas dû faire ça. Mais ce sont des coups. On est loin de ce qu'ont fait les Hanbalites plus tard à quelqu'un comme Tabari ou à d'autres. Hein, bon. Par contre, ça, bien sûr, on l'oublie. Hein. On parle peut-être d'Ibn Hanbal, de la pauvre souffrance et la passion d'Ibn Hanbal. Qu'est-ce qu'il a fait, en fait ? Pourquoi est-ce qu'Ibn Hanbal a subi ça ? Parce que le calife Al-Ma'moun, il a imposé une épreuve, mahna, épreuve, examen, dans lequel il imposait, à qui il imposait ? Pas aux gens, hein. Pas aux simples gens, l'agriculteur qui est chez lui. Il a imposé aux Qudat et aux Ulema, donc aux Shuyukh, aux grands, à ceux qui faisaient partie de l'élite, des fonctionnaires d'État, il leur a imposé le fait de reconnaître le Coran créé. Et ceux qui le refusaient, ils étaient exclus de l'enseignement, ils étaient exclus de leur poste, etc., dont Ibn Hanbal. Et derrière cette démarche, quelqu'un comme André Michel, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ça a été une des premières tentatives, je crois que ça m'a fait sourire votre question, elle est pas mal. Il a dit, ça a été une des premières tentatives de laïcisation. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'a voulu faire Al-Ma'moun ? Après, je pense que Eva va mieux, suis pas extérieur. Hein. Mais je suis plutôt dans la lecture, dans quel sens on peut dégager de ça. Donc c'est pas vraiment un truc d'historien. Moon, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu mettre en retrait toute une partie des fonctionnaires, donc tous les religieux, tous les hiérarques, ceux qui parlaient au nom de la religion. Il a voulu les mettre en retrait, dire, reconnaissez que le Coran est créé. Si vous reconnaissez que le Coran est créé, on laisse de la place, c'est ma lecture, hein. On laisse de la place à l'interprétation juridique, on laisse la place à l'effort rationnel, on laisse la place aussi au changement, on laisse la place aussi à quelque chose de nouveau, quelque chose qui va sortir d'une sorte de...
Excusez-moi, en fait, ouais. Qu'est-ce que ça change de le fait qu'on dise le Coran est créé ou incréé?
Bah, en fait,
ça change quoi en soi? Parce qu'à partir du moment où ça vient de Dieu, c'est quoi? J'ai toujours du mal, moi, à voir ouais. Le changement principal, en fait.
En fait, le changement le plus direct, le plus tangible dans la pratique, c'est que si on aborde le texte en disant « le texte est incréé », qu'est-ce qu'on dit en réalité? On dit que c'est... Hein?
Intangible.
Il est intangible, mais on dit qu'il est parfait. On dit que c'est un... J'exagère, mais vraiment, vous compreniez. C'est un bout de Dieu qui est sur terre.
C'est un état finalisé.
Hein? Ouais, c'est une incarnation.
Pas clair, là, je peux pas me... En fait, j'interviens vraiment parce que j'ai posé cette question hier à Ben Khela,
ouais.
Qui est mon professeur de fiqh à l'UPHE. Je lui ai dit, est-ce que vous pensez que la pensée théologique, le kalam, a eu une influence sur le fiqh, justement? Alors lui, il est catégorique, il dit pas du tout. Il y a vraiment une séparation étanche entre les deux disciplines, c'est-à-dire que la théologie est une discipline qui s'est occupée de comprendre ce qu'est Dieu, tout simplement, se poser la question de l'attribut divin, de Dieu, le lien du Coran, de la parole de Dieu à Dieu. Mais le fait que c'est vraiment une discipline à part qui n'a pas eu d'influence, en fait, sur laquelle le calème n'a pas eu d'impact du tout.
Historiquement, c'est peut-être vrai. Enfin, mais ce qui me marque moi aujourd'hui par exemple, c'est que quand tu parles du kalam, enfin, quand tu dis le Coran et la parole de Dieu au sens propre qui est là sur terre, ce qu'on dit c'est une forme d'incarnation, c'est-à-dire que t'es dans une forme où le messager et le message se mêlent et où en fait pourquoi tu fais des ablutions quand tu vas toucher le Coran en fait.
Oui, mais en même temps ça c'est ce qu'on appelle une téléologie. Parce que en fait, du coup, on applique une compréhension avec nos lunettes d'aujourd'hui, avec toutes les données qu'on a aujourd'hui.
En tout cas, dans la lettre, dans l'épître d'El Ma'moun.
À l'époque où ces sciences-là se sont constituées, ça n'est pas du tout comme ça qu'elles se sont...
La raison que met en avant El Ma'moun dans sa lettre, dans laquelle il annonce la mise en place de la Mehna, c'est justement d'éviter que les savants... aille colporter une erreur contre Dieu, quelque chose qui est faux. Alors, c'est une justification, hein. Vendons-nous bien. Mais, moi, c'est une justification qu'aujourd'hui j'entends. C'est qu'il dit on ne peut pas dire que le Coran est incréé, puisque c'est de dire en fait que le Coran, c'est Dieu. C'est Dieu qui est là. C'est un bout de Dieu. Et il dit que ça, c'est quelque chose qui atteint à l'éternité, à quelque chose qui est propre à l'unicité de Dieu, qui est que l'éternité ne peut être que celle de Dieu, et seulement de Dieu. Et on ne peut pas penser qu'il y a un co-éternel à Dieu qui serait le Coran. Parce que si on dit que le Coran est incréé, on dit que le Coran est éternel. Ça voudrait dire que les versets dans le Coran qui disent que celui qui sera récompensé, celui qui ira en enfer, ils sont éternellement valables, y compris après le jugement. Et là, c'est Aristote, c'est la régression à l'infini. Et il dit, on ne peut pas reconnaître le Coran comme étant incréé, parce que ça poserait ce problème-là. Après, sur le faire, je suis d'accord, parce que même dans le cadre des gens qui ont dit que le Coran était incréé, ça ne les a pas empêchés de sortir l'abrogé imbrogé, ça ne les a pas empêchés de faire remplacer des bouts de versets coraniques par des sunnas, ça ne les a pas empêchés de recourir au consensus, etc., à plein d'autres outils argumentatifs pour justement cacher ce qui... Enfin, cacher. Pour ne pas prendre en considération ce qu'il y avait dans le Coran. Effectivement, ça n'a pas eu... Mais moi, je trouve que ça... Après, c'est ma lecture à moi. Je trouve qu'il y a un impact parce qu'à cause de ça, la sacralisation excessive ne permet pas d'aborder le texte avec une critique décomplexée, entre guillemets.
Est-ce que le fait aussi...
Justement, en fait, à quel niveau on va positionner le curseur? Parce que quand on regarde, est-ce que quelque part il n'y a pas eu d'intervention humaine dans le Coran, dans la pensée humaine? Et c'est là en fait toute la question, parce que quand on voit qu'il y a un ensemble de contradictions dans le Coran, on en fait quoi en fait?
Mais c'est ça la question. On sait historiquement parlant qu'il y a eu des constructions. Pardon, je parle beaucoup. Mais juste, je finis, après tu reviens sur...
Parce que, juste, je continue sur un point. Ouais. Parce qu'au final, aujourd'hui, on peut parler de la construction humaine de l'islam, tout ce qui concerne la tradition et tout ce qui s'ensuit. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de la pousser jusqu'au Coran, justement pour désacraliser ou déconstruire et essayer d'appliquer une analyse critique pour pouvoir comprendre de ça bien?
Ah ouais, mais complètement.
Oui,
mais
parce complètement, que tant qu'on n'est pas arrivé à ce point-là, à mon avis, on n'est pas en train de...
Ah non, non, mais au contraire...
On n'a pas touché, en fait, le fond du sujet, et c'est ça le problème. Je pense que les Mu'tazilites, en mettant en place la notion de libre-arbitre et la notion de courant incréé, créé, ont touché à quelque chose, mais à mon avis, il reste beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Ils ne les ont pas faites à l'époque, peut-être pour des raisons politiques, pour plein de raisons. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, notamment dans les démocraties occidentales, il y a un espace pour pouvoir faire un certain travail dans ce sens et puis arriver à des conclusions. Ouais, parce que si on reste juste dans le fait qu'on dise le Coran, voilà, il est là, c'est la parole de Dieu, c'est sacré, donc on ne regarde pas de près, que je sache, moi, quand je lis le Coran, il y a plein de mots, par exemple, qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Mmh. Des mots qui sont en syro-aramien. Mmh. En éthiopien et même d'autres langues. Mmh. Donc aujourd'hui, moi je pose des questions à des personnes qui me disent qu'elles sont très croyantes, et quand je leur demande de m'expliquer un mot dans le Coran, ils ne savent pas l'expliquer. Mmh. Ils me donnent une explication comme ça, vite fait. Mais quand je regarde de près, je m'aperçois que le mot au final, il a des origines syro-aramiennes. Et c'est pour ça qu'on ne le comprend pas. Mmh. Je ne suis pas chercheur dans le truc, mais il y a notamment un chercheur allemand qui a écrit un livre là-dessus. Il y a un pseudonyme, ça s'appelle Luxembourg, je crois.
Ah oui, Christophe Luxembourg.
Ouais. Et lui, il a essayé justement de changer le tonquet, le tchiquet Et là, il arrive à expliquer un certain nombre de choses.
Il a tendance, de manière, parce que je parlais avec d'autres, et il a tendance un petit peu à être... un peu monomaniaque là-dessus sur
le ramé. Mais il n'y a pas de souci là.
Syriaque, mais c'est vrai,
il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que je retiens chez lui, c'est une certaine ouverture d'esprit, comme chez les Mu'tazilites d'ailleurs. Cette ouverture d'esprit permet justement d'analyser les choses, et de centraliser, et de voir comment on peut. C'est pareil pour les autres religions, hein, parce que. Aujourd'hui, le christianisme est largement critiqué.
Ils n'ont pas de problème avec l'approche.
Mais le judaïsme, il y a beaucoup de travail qui reste à faire dessus, et aussi l'islam. Donc,
je pense que là, on touche le problème fondamental, en fait. Je trouve qu'Aïna, t'as bien fait de mentionner, et Benrella, il a totalement raison de dire qu'il y a eu un cloisonnement très fort entre les disciplines religieuses. C'est-à-dire que d'un côté, on va étudier le kalam, on va étudier la akida, la doctrine. De l'autre, on va étudier la charia, et puis au sein même de la charia, vous avez plein de sous-catégories, hein, droit de la famille, droit pénal, etc. Et en fait, il n'y a quasiment aucune communication entre les deux. Et le problème, c'est qu'effectivement, le concept de Coran créé, il ouvre une multitude de portes, comme vous le dites. Il ouvre la possibilité vraiment de pousser les choses jusqu'au bout, et de faire communiquer ce qu'on dit à propos du Coran sur la pratique, sur vraiment l'aspect normatif. Mais on ne l'a pas fait, en fait. On ne l'a pas fait, effectivement. Les Mu'tazilites, en fait, ont inventé un concept qui est, à mon avis, extrêmement puissant, et qui, aujourd'hui, peut-être nous parle aussi parce qu'on vit dans des pays, ici, dans un pays laïque. Donc on a la possibilité d'en déduire des choses un peu plus fortes. Mais effectivement, je crois que c'est Abdelkalim Solouch, un islamologue iranien, qui a dit que les Mu'tazilites n'étaient pas allés assez loin sur ce Coran créé.
Disant pas qui parlait.
Oui, voilà, en ne tuant pas la question.
En fait, en ne disant pas le poids qu'avait joué le prophète dans la révélation. Est-ce que Fadzal Rahman dit le
double mot? Oui, aussi, oui. Et autre élément, du coup, donc il n'y a pas eu pour moi cette communication entre le kalam d'un côté et la norme, la normatisation de l'autre. Mais il y a aussi un autre élément, il y a quand même eu des efforts de fait, du côté du fiqh, du côté des Hanafites, des premiers Hanafites. Parce qu'on voit que les premiers Hanafites, en fait, c'était des pragmatiques. C'est des gens qui... on n'en est pas encore à l'abstraction totale du droit musulman, où il y a vraiment une réflexion sur les principes. On en est encore à la phase Abu Yusuf et Shaybani. Ce sont des cadis, ce sont des gens qui doivent, qui réfléchissent en tant que juges. Donc très concrètement, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme décision en tant que juge pour punir, par exemple, quelqu'un. Donc eux, ils sont très, très pragmatiques. Et il y a eu, dans les premiers écrits du roi Hanafite, la tendance à dissocier deux choses, à dissocier d'un point de vue territorial, en fait, les choses. C'est-à-dire, vous avez d'un côté le Dar al-Islam, c'est-à-dire le territoire de l'islam, donc là où la charia s'applique, et de l'autre, vous avez le Dar al-Harb, le territoire de la guerre, c'est-à-dire, globalement, les royaumes occidentaux chrétiens ou l'Empire byzantin pour l'Orient. Et en fait, eux, ce qu'ils disent les Hanafites, c'est qu'ils sont très concrets. Ils disent, à partir du moment où tu passes la frontière, quand tu es dans un pays qui n'est pas... où la charia, en fait, ne s'applique pas, là, pour le coup, tu es face à Dieu. C'est-à-dire que si tu décides, par exemple, d'acheter du porc ou si tu décides de boire de l'alcool, là, la notion de repentance, elle se fait juste entre Dieu et toi. C'est-à-dire que le juge, en fait, musulman, il va pas venir te chercher de l'autre côté de la frontière pour te punir et, d'un point de vue du droit positif, te punir concrètement. Donc ils dissociaient, en fait, la faute, je dirais morale, la faute du point de vue de Dieu, et la faute qui pouvait être punie par un juge temporel, etc. Du coup, il y avait cette dissociation qui ouvre pour moi la porte, en fait, à la possibilité de réinventer un droit un peu à l'extérieur, justement, des territoires de l'islam. Et il y a eu cette réflexion normative qui est là presque laïque, je dirais. C'est-à-dire de se dire qu'on distingue la loi positive au sens où c'est pas une loi temporelle, et on distingue la loi divine où là c'est plus une réflexion, du coup, pour répondre aussi à votre question tout à l'heure, où là on est entre Dieu et le fidèle, quoi. Il y a personne qui a à s'interposer entre les deux. Là c'est quelque chose, ça, vous avez posé la question. Et comment on sait, en fait, si Dieu nous a pardonné? Après, là, c'est quelque chose de tellement intime, et je pense que ça se ressent un peu au profond de soi. On n'est pas dans une logique de catégorie normative infinie.
C'est la mystique qui peut répondre à ça.
Je trouve que là, la mystique entre tout à fait en ligne de compte.
Et encore.
Parce qu'on n'a pas de temps.
Oui, mais même comme ça, mais même dans ce cas-là, les gens, même s'ils récitaient les Paternoster et compagnie, restaient quand même la question derrière. Je pense que la question reste ouverte.
Juste deux courtes remarques. D'abord, il y a un arrière-plan, même chez certains fouqahas, donc des fiqhs, en termes de kalam. Par exemple, le chef Yahi, qui est l'un de ceux qui a combattu la rationalité dans l'islam, qui l'a vidé de tout son sens, il était Ash'arite. Shafi'i, il était le fondateur de Ilm Usul al-Fiqh.
Oui, c'est lui qui a fait
ça. Il a la même conception que les Ash'arites. Je ne parle pas de temporalité.
Donc les Ash'arites, ils ont la même conception.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire, c'est la même mouvance, c'est-à-dire qui était contre la rationalité. Contre la rationalité. C'est-à-dire qu'ils ont une vue du kalam, même sans y être encore. Est-ce que tu vois? Donc, ça, c'est...
Le kalam étant la théologie.
La théologie.
La théologie, c'est ça.
Pour que tout le monde...
La théologie, plutôt, vue dans le sens mutazilite, plutôt.
Si très spéculatif.
C'est la même chose que la Akeza, mais la Akeza, c'est plus chez les Sunnis.
Par contre, le concept de Coran incréé ou incréé, il a des implications. Les pouvoirs absolus, ils ne voulaient absolument pas entendre parler de Coran créé. Parce que pour eux, ils sont une donnée divine, leur présence au pouvoir est une donnée divine, donc les gens n'avaient aucun choix là-dessus, donc en quelque sorte, eux, ils étaient prévus à l'avance, et donc le Coran, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que pour eux, dire que le Coran est créé, en fait, c'est dire que vous n'avez absolument aucun pouvoir d'interprétation et que c'est valable pour toutes les époques, c'est-à-dire la transposition pure et simple de l'islam du 7e siècle à toutes les autres époques telles quelles. À prendre ou à laisser.
C'est quand on dit le Coran est incréé.
Quand ils disent que le Coran est incréé.
Voilà, parce que vous avez dit
non, non. Quand le Coran est incréé. Donc, dire que le Coran est créé, ça ouvre donc des perspectives comme on venait de le dire. Juste une petite remarque et je finis avec Luxemburg. Luxemburg, c'est loin de quelqu'un qui fait de l'ijtihad, c'est quelqu'un qui agit sous ses pseudonymes. Il est un chantre d'une islamophobie savante, donc il peut en savoir davantage. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur lui, donc c'est loin d'être des études innocentes. Ceci étant, tout ce qu'il dit n'est pas faux. C'est juste pour situer le contexte. Voilà.
Juste trois petites réflexions.